VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 30 novembre 2023 avec vous Eric Manirakiza. D'abord les titres. L'ancien diplomate américain Henry Kissinger est mort à l'âge de 100 ans.
C'est certainement l'un des occupants du poste de Secretary of State que beaucoup de gens pensent être le plus intellectuel dans sa formation, dans son attitude.
Au cœur de la campagne présidentielle en RDC, les candidats en lice dévoilent leur programme politique.
Le programme de Moïse Katumbi se décline sur quatre piliers qui concernent en fait toutes les transformations.
La ville de Toma au Burkina Faso est devenue un havre de sécurité pour les déplacés fuyant l'insécurité. Le Qatar confirme la prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas jusqu'à vendredi. La COP 28 à Dubaï, les attentes de l'Afrique face à l'urgence climatique. Nous aurons un regard sans illusion d'un militant écologiste camerounais. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Grande figure de la diplomatie américaine, Henry Kissinger est décédé hier à l'âge de 100 ans dans sa résidence du Connecticut, comme annoncé mercredi soir par son cabinet de conseil. Aucune précision sur la cause du décès n'a été communiquée. Le point avec Abdrahman Dia.
Juif allemand, né en 1923 en Bavière, Hans Alfred Kissinger a été naturalisé américain à l'âge de 20 ans. Fils d'instituteur, il a intégré le contre-espionnage militaire et l'armée américaine avant de poursuivre de brillantes études à Harvard où il a également enseigné. Reconnaissable à sa grosse monture de lunettes, il s'est imposé comme le visage de la diplomatie mondiale lorsque le républicain Richard Nixon l'a appelé à la Maison-Blanche en 1969 comme conseiller à la sécurité nationale, puis comme secrétaire d'État. Il a cumulé les deux postes de 1973 à 1975 et il est resté maître de la diplomatie sous Gerald Ford en 1977. C'est alors qu'il a lancé la détente avec l'Union soviétique et le dégel de relations avec la Chine de Mao lors de voyages secrets pour organiser la visite historique de Nixon à Pékin en 1972. Il a aussi mené, toujours dans le plus grand secret et parallèlement au bombardement de Hanoï, des négociations avec le duc Tho pour mettre fin à la guerre du Vietnam. La signature d'un cessez-le-feu lui a valu le prix Nobel de la paix avec le Nord vietnamien en 1973, l'un des plus controversés de l'histoire du Nobel.
L'ancien président américain George W. Bush a salué la mémoire de l'ex-secrétaire d'État Henry Kissinger, l'Amérique ayant selon lui perdu l'une de ses voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xi Feng, a qualifié ce jeudi de perte énorme la disparition de l'ancien diplomate américain qui a joué un rôle central dans l'établissement des relations entre Pékin et Washington. Le premier ministre japonais salue les contribution significative à la paix et la stabilité en Asie de Kissinger. En quoi donc les actions de Henry Kissinger ont-elles influencé la politique internationale moderne? Suivez la réaction de l'historien Mohamed Mbodj au Manhattanville College à New York.
Tout à fait. On peut dire que c'est dans son sillage que même ce qu'on a appelé plus récemment les néocons ont démarré à avoir une influence au département d'État, c'est-à-dire des idéologues qui n'utilisent pas les canaux habituels de la diplomatie, et donc ou les négociations de personne à personne, où les systèmes un tout petit peu se suivent et se marquent, mais font des concessions sur le plan pragmatique. Et donc, on doit se rappeler que parmi les gens qui sont dans son cercle, il y a effectivement beaucoup de ces, ce qu'on a appelé par la suite, donc les néocons, en particulier Brent Scowcroft et d'autres, Richard Allen. Donc, en quelque sorte, il a effectivement laissé cette idée que, en réalité, les politologues purs de l'école de Chicago en particulier et de Georgetown sont capables de mener la diplomatie américaine aux grandes dames de la diplomatie traditionnelle qui était faite un tout petit peu d'approche et de touches légères ou de convenances et de politesse et, disons, beaucoup de formalités pour arriver à des résultats. Kissinger, donc, a inauguré cette façon de faire et, comme je l'ai appelé, parlé il y a quelques minutes est un peu une sorte d'intervention au scalpel. On va directement au but, on ne s'entoure pas beaucoup de précautions, en particulier pas de précautions verbales inutiles, et donc seul le résultat compte, et en particulier, quel que soit le prix à payer, seul le résultat final compte, et donc cette école-là, effectivement, a influencé. On l'a appelé la réelle politique ici ou là. C'est certainement lui qui a inauguré cette façon de faire la diplomatie.
L'historien Mohamed Bodj au Manhattanville College à New York. Nous le retrouvons dans la partie magazine. Deuxième semaine de campagne pour la présidentielle du 20 décembre en RDC, les candidats rassemblent et défoulent dans l'est du pays, malgré les conflits et les craintes de violence. Le point avec Antoine Roger Balomba.
Bunia, Bukavu, Butembo, Beni, Ocha ou encore Goma, les foules sont nombreuses pour assister à de nombreux meetings sur les grandes places. L'opposant Moïse Katumbi, l'un des 23 candidats, est le premier à s'être rendu à Goma, capitale du Nord Kivu. Patron du tout-puissant Mazembe et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui voyage en jet privé, critique le bilan du président sortant, Félix Tshisekedi, face à la rébellion du M23. Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, est arrivé mardi à Bunia, dans la province voisine de l'Ituri. 6 jours plus tôt, Moïse Katumbi y avait tenu un meeting dans une ambiance festive. Le prix Nobel de la paix en 2018 et candidat à la présidentielle, Denis Mukwege, a pour sa part lancé sa campagne dans sa ville natale de Bukavu, dans le sud Kivu. Il s'est rendu ensuite à Butembo et à Beni, où il a été accueilli par ses partisans, dont de nombreuses femmes. Candidat malheureux en 2018, Martin Fayoulou sillonne lui aussi la région. Il a été mardi à Beni, accompagné d'un artiste et musicien pour agrémenter son meeting. Il a appelé la population à barrer la route à Félix Tshisekedi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La trêve entre Israël et le mouvement palestinien Hamas sera prolongée d'un jour jusque demain vendredi, a confirmé ce jeudi le Qatar, pays médiateur, alors qu'une pause humanitaire de 6 jours dans la bande de Gaza était sur le point de s'achever. La prolongation de la trêve se fait aux mêmes conditions que celles des autres pauses, à savoir l'arrêt des activités militaires et l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a expliqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Tout se déroule dans le cadre de la médiation conjointe du Qatar, de la République arabe d'Égypte et les États-Unis. Par ailleurs, un nouveau groupe d'otages israéliens et étrangers a été libéré en échange de 30 prisonniers palestiniens dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Nanit Talani pour les détails.
10 otages israéliens, dont 5 binationaux, ont été remis par le Hamas à la Croix-Rouge internationale, a annoncé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Israël a ensuite confirmé leur arrivée via l'Égypte. En échange, 30 Palestiniens détenus dans plusieurs prisons israéliennes ont été libérés plus tard dans la nuit, a annoncé l'autorité pénitentiaire israélienne. Selon le Qatar, il s'agit de 16 mineurs et 14 femmes. Le mouvement palestinien est prêt à libérer tous les soldats israéliens qu'il détient en échange de tous les Palestiniens emprisonnés en Israël, selon Bassem Naïm, haut responsable du Hamas et ex-ministre de la Santé à Gaza, lors d'une conférence de presse en Afrique du Sud. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé tôt ce jeudi matin à Tel Aviv en Israël. Il doit aussi se rendre en Cisjordanie occupée.
La France a une nouvelle fois condamné les violences commises par des colons juifs contre des Palestiniens de Cisjordanie et appelle Israël à y mettre un terme et sanctionner les auteurs de ces exactions. Michel Claire-Joseph.
Nous réitérons notre ferme condamnation de ces violences et notre préoccupation face à l'accroissement de ces violences, a déclaré hier Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay. Nous appelons Israël à y mettre un terme et à poursuivre en justice les auteurs de ces exactions, a-t-elle ajouté. Selon elle, ces exactions sapent les perspectives de la solution des deux États. Elle a aussi condamné l'annonce de 100 millions d'euros consacrés à la construction de nouvelles colonies israélienne. Quelques 490 000 colons juifs vivent au milieu de 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Ces colonies sont considérées par l'ONU comme illégales. Depuis l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël, la violence a flambé en Cisjordanie. Près de 240 Palestiniens y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé. Les États-Unis aussi ont demandé récemment à Israël de prendre des mesures pour mettre fin à ces violences.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, assistera cette semaine à la très attendue conférence de l'ONU sur le climat à Dubaï, a annoncé la Maison-Blanche.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvons ce matin Mohamedou Oumfa dans sa Minute Éco.
La Cour de justice d'Afrique de l'Est a rejeté mercredi une action en justice contre un méga-projet d'oléoduc du français Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Le méga-projet qui a fait l'objet d'un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et la compagnie chinoise CNOOC comprend le forage de 419 puits et la construction d'un oléoduc chauffé de plus de 1400 kilomètres. Les défenseurs de l'environnement estiment que ce projet menace le fragile écosystème et les populations de la région. L'économie rwandaise est restée résiliente sur l'exercice financier 2022-2023 malgré le ralentissement économique mondial, a déclaré la Banque nationale du Rwanda dans son dernier rapport présenté lundi au Parlement. L'exercice financier 2022-2023 a été difficile pour les Rwandais en raison de pressions inflationnistes élevées et persistantes ainsi que de problèmes liés aux conditions météorologiques qui ont eu un impact négatif sur la production agricole du pays, peut-on lire dans le rapport. Le projet Luele Diamond, le plus grand projet minier de diamants d'Angola, a été officiellement inauguré lundi par le président João Lourenço. Il s'agit d'une mine de diamants de gisement de kimberlite découverte en 2013, dont l'exploitation minière devrait s'étendre sur 60 ans, a précisé le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz. Dans sa phase initiale, il devrait produire plus d'un million de carats par an, générant un revenu brut annuel de 60 millions de dollars.
Nous passons directement à votre page des sports, Yacouba Ouedraogo avec nous. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Clôture hier de la cinquième journée des matchs en Ligue des Champions.
Oui, Arsenal du Ghanéen Thomas Partey a surclassé Lens 6-0 à l'Emirates Stadium pour décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Arsenal est assuré de terminer en tête de la poule. Derrière, le PSV Eindhoven vainqueur de Séville 3-2 sera aussi de la partie en huitième de finale. Dans le groupe C, Naples du Nigérian Victor Osimhen devra attendre un peu avant de fêter sa présence en huitième. Le champion d'Italie deuxième s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid 4-2. Malgré un magnifique but du milieu de terrain camerounais Frank Zambo-Anguissa, Braga et l'Union Berlin ont dans le même temps partagé les points 1-1, alors que le Bayern Munich a déjà tué tout suspense dans la poule A. La lutte pour le second billet pour les huitièmes de finale sera âpre jusqu'au bout. Manchester United du portier camerounais André Onana, qui a pourtant mené 3-1 à la 55e minute, a été incapable de sauvegarder son avantage à Galatasaray, 3-2 à la fin. Le Marocain du club turc Hakim Ziyech a signé un doublé. Dans le groupe D, l'Inter Milan, finaliste la saison dernière, et la Real Sociedad sont certains de finir à l'une des deux premières places. Les Milanais ont encaissé 3 buts de Joao Mario avant de cravacher pour revenir au score à Benfica, 3-2. Et les Espagnols n'ont pas fait mieux que 0-2 à domicile contre Salzbourg.
Enfin, basketball, la nouvelle coupe NBA a désigné ses qualifiés pour les quarts de finale.
Boston, Milwaukee, New York, Phoenix, Sacramento et la Nouvelle-Orléans se sont qualifiés pour les quarts de finale de ce tournoi de mi-saison nouvellement créé par la NBA. Boston s'est imposé face à Chicago 124-97 et dans ces rencontres qui comptent aussi pour la saison régulière, Milwaukee s'est débarrassé de Miami 131-124. Sacramento s'est imposé face aux Golden State Warriors 124-123. Les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers avaient déjà validé leur qualification pour les quarts de finale la semaine dernière. Les quarts de finale justement vont opposer Milwaukee à New York, Indiana à Boston, Los Angeles à Phoenix et Sacramento à la Nouvelle-Orléans. Les vainqueurs se rendront à Las Vegas pour y disputer un Final Four avec les demi-finales le jeudi 7 décembre, puis le 9 décembre, la finale, la seule rencontre qui ne compte pas pour la saison régulière.
C'était les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Henry Kissinger, grande figure de la diplomatie américaine aux facettes parfois controversées, qui fut secrétaire d'État sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford, est mort à l'âge de 100 ans, acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide. Monsieur Kissinger est mort hier dans sa maison du Connecticut, a annoncé mercredi soir son organisation dans un communiqué. Quels sont les éléments clés de l'héritage diplomatique laissé par Henry Kissinger? Nous avons joint l'historien Mohamed Mbodj, professeur au Manhattanville College à New York.
Son héritage, c'est un peu un côté réel politique, c'est-à-dire qu'il faut faire avec les moyens qu'on a et aller jusqu'au bout, ne pas avoir trop d'idéal ou de sentiments par rapport à ce qu'on fait. Donc une sorte de chirurgie au scalpel lorsqu'il s'agit de le faire et de ne pas prendre beaucoup de gants. Bien entendu, tout ça enrobé d'une présentation hautement intellectuelle. C'est certainement l'un des occupants du poste de Secretary of State que beaucoup de gens pensent être le plus intellectuel dans sa formation, dans son attitude. Mais au finish, un héritage assez lourd et assez divisé.
Quelle critique ou controverse majeure entoure la carrière de Kissinger en tant que diplomate? Comment cela a-t-il affecté son héritage dans les relations internationales?
Beaucoup de spécialistes en sciences politiques pensent qu'il a été le meilleur secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis. En tout cas, c'était un peu l'impression qu'on avait il y a peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Maintenant, son bilan est un peu plus mitigé, d'autant plus que, disons, le bilan qu'il présente, la fin de la guerre du Vietnam, par exemple, un peu le complot dans lequel il s'enferme avec Nixon pour piéger les démocrates et faire en sorte que, effectivement, la guerre du Vietnam peut-être aurait été résolue un peu plus tôt si lui et Nixon ne s'étaient pas mis. Donc, dans la perspective, effectivement, d'enlever cette victoire à un président démocrate, mais plus profondément, les résultats du coup au Chili, donc le renversement d'Allende par Pinochet, et où visiblement, donc, Kissinger voulait donner une leçon magistrale de la capacité des États-Unis à intervenir sans actuellement paraître y intervenir, sans mettre des soldats sur le terrain et en utilisant des proxys, comme on les appelle maintenant, pour faire le travail. Et donc, le coup donc, qui a renversé Allende au Chili est l'une des taches les plus noires dans sa réputation par la suite.
Vous avez défini tout à l'heure le style et la méthode de Kissinger en tant que diplomate. Quelles sont ses réalisations les plus marquantes dans ce domaine, le rapprochement avec la Chine?
Oui, c'est certainement le joyau de la couronne, si on peut parler ainsi. Arriver à convaincre Nixon d'abord de voyager dans des endroits où éventuellement l'anti-américanisme semblait être à fleur de peau, mais arriver à entamer un dialogue avec les Chinois, donnant, et faire en sorte que, donc, évidemment, ce qui laisse compter, c'est un peu détacher la Chine de l'Union soviétique, ce qui était un but immédiat et important qu'il a partiellement achevé à l'époque. Et effectivement, la diplomatie du ping-pong et tout ça, c'est certain que ça va rester dans les annales de l'histoire comme étant un coup de maître parce que finalement, beaucoup de gens n'étaient pas très pessimistes quant à la possibilité, quant à la possibilité d'un rapprochement et même de réconciliation entre la Chine et les États-Unis, donc à la fin des années 60, au début des années 70.
L'historien Mohamed Mbodj, professeur au Manhattanville College à New York.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La région de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso est fortement affectée par le terrorisme, rendant certaines zones inaccessibles sans escorte militaire. Malgré sa relative sécurité, Toma devient un refuge pour de nombreux habitants des villages voisins contraints de fuir en raison de l'insécurité croissante, faisant de la ville un lieu d'accueil pour les déplacés. C'est un reportage de notre correspondant Gilles Dasta.
Dans un quartier périphérique de la ville de Toma, Bruno, note d'emprunt, s'échine à finir le vêtement d'une cliente. La machine à coudre tourne à la manœuvre, l'air serein. Bruno nous compte ses derniers instants passés dans son village de Sarankwe, à 20 km de là, avant que les terroristes ne les poussent au départ.
On avait entendu parler d'eux, qu'ils rôdaient dans les parages. Un jour, ils sont arrivés chez nous. Et ils nous ont donné jusqu'au lendemain pour quitter le village. C'est ainsi que ma famille et moi avons quitté le village pour venir à Toma ici. On est là depuis des mois et depuis on n'a rien reçu comme aide en termes de vivres. Pourtant, il y a nos pères et nos enfants avec nous.
Bruno aura fui avec 15 membres de sa famille. Depuis son installation ici à Toma, à près de 200 km de Ouagadougou, les difficultés ne manquent pas.
Depuis que je suis là, je me débrouille avec la couture et ma clientèle. Mais c'est difficile et c'est loin de mes attentes. Dans mon village, je gagnais beaucoup plus que cela.
Cette région de la boucle du Mouhoun où vit Bruno est l'une des plus touchées par le terrorisme. Hormis son village, d'autres localités ont dû plier bagages. C'est le cas de Zouma, village de Fatou, autre nom d'emprunt.
Ils sont venus nous chasser un soir de chez nous. Ils ont commencé à tuer les gens et finalement, tout le monde est parti.
Cette dame, qui était plutôt bien nantie dans son village, est désormais réduite à aller cueillir des aliments en brousse pour nourrir ses 6 enfants qui n'ont, comble du malheur, plus accès à l'école depuis leur arrivée à Toma.
Depuis que nous sommes ici, on est délaissés et pour manger, c'est difficile. Aucun de nos enfants n'a pu repartir à l'école. Pour manger, nous allons en brousse pour élever ces feuilles et graines que nous faisons bouillir pour manger avec nos enfants.
Parole d'une déplacée interne qui ne sait plus à quel saint se vouer. De là, nous allons à l'autre bout de la ville, à la rencontre d'un déplacé interne que nous appelons Moussa. Il est parti de Gassan. Depuis janvier de cette année.
Plus de 10 mois ou bien combien de mois au dehors, là, vraiment, c'est pas simple. Nous vivons difficilement. Et puis, bon, l'être humain aussi, si tu n'es pas, c'est toi. Je peux dire, en tout cas, c'est pas simple. Puis tout le monde est mieux, c'est lui.
En tout et pour tout, il a reçu de l'aide une seule fois depuis son arrivée. Et depuis, il est sans activité avec pourtant un loyer à payer, comme tant d'autres déplacés. Gilles Dasda de retour de Toma, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La campagne présidentielle en RDC s'intensifie, marquée par des rassemblements publics où les candidats exposent leurs programmes politiques. Dans cette dynamique, La Voix de l'Amérique vous propose une série d'émissions sur les candidats et leurs projets de société. Ce matin, nous vous présentons Moïse Katumbi, candidat et président du parti Ensemble pour la République. Eddy Issango a joint son porte-parole, Maître Hervé Dikies.
Moïse Katumbi est un homme entrepreneur, un homme qui transforme sa société et un homme qui l'amène vers le succès. Il est connu comme aussi un homme aux actions sociales et humanitaires. C'est la caractéristique, c'est un gagnant et c'est quelqu'un qui a impacté son environnement, son milieu d'origine et qui est toujours à la conquête d'un avenir meilleur pour lui et pour les autres. Lorsqu'on vous dit que Moïse Katumbi est un homme de compétition, ça implique effectivement son côté sportif. Il est le président du club le plus célèbre professionnel du continent aujourd'hui, Mazembe. Donc c'est un homme qui, dès le départ, sait identifier les talents, encadrer les jeunes, les former, les doter des compétences nécessaires et les rendre compétitifs et gagnants. Donc c'est un homme pragmatique, c'est un homme d'organisation, ce n'est pas un pleurnichard, ce n'est pas quelqu'un qui se défausse sur les autres, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, les prend et se donne le moyen d'atteindre des objectifs qui s'est passé. Son expérience comme gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, s'est caractérisé comme un bâtisseur. Ça veut dire un leader qui était totalement orienté vers les infrastructures, en mettant en place des politiques de partenariat public-privé avec les miniers et les autres intervenants dans les secteurs économiques du Katanga. Et Moïse Katumbi a été un gouverneur visionnaire qui a pu mobiliser les plus grandes recettes en les multipliant, en les décuplant, alors même qu'il avait trouvé la situation, la province minière la plus riche du pays, dans le bas-fond. Et au demeurant, en quittant sa fonction, Moïse Katumbi a laissé une situation excédentaire dans les caisses de la province, ce qui est sans précédent dans toutes les autres provinces de ce pays.
Quel est son programme à l'élection présidentielle?
Le programme de Moïse Katumbi se décline sur 4 piliers qui concernent en fait toutes les transformations. Hein. D'abord, les transformations institutionnelles qui passent par un objectif majeur, assurer la sécurité et la stabilité de l'État, condition sine qua non pour un bien-être meilleur. Et donc avoir une armée qui soit elle-même bien outillée, bien formée, avec des militaires dotés des moyens nécessaires à garantir la sécurité de l'État et des services de l'État qui luttent efficacement contre la corruption et des mécanismes qui garantissent pour tous les Congolais un libre accès à la justice et au respect des droits humains. L'autre pilier qui passe par la transformation économique, c'est que notre pays, qui est potentiellement riche, n'a pas d'industrie de transformation de ses immenses ressources.
Qu'est-ce qu'il compte faire de différent par rapport à ce que le Congo connaît ou par rapport à ce que les autres candidats présentent?
C'est quelqu'un qui a déjà travaillé, donc il ne viendra pas prendre le travail au sommet de l'État. C'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a plus besoin d'épuiser dans la caisse de l'État pour résoudre ses propres problèmes et ceux de sa famille politique.
Maître Hervé Dikies, porte-parole du parti politique du candidat Moïse Katumbi, Ensemble pour la République.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
La 28e conférence des partis de l'ONU, COP28, s'ouvre demain à Dubaï, mettant en lumière l'urgence du dérèglement climatique, surtout en Afrique, région souvent la plus affectée. Les pays africains, victimes principales des impacts du réchauffement de la planète, attendent des mesures concrètes pour une transition écologique juste et pérenne, bien que certains experts, comme Didier Yimkwa, du mouvement Écologie en Marche, doute de l'issue de cette conférence. Il a été joint à Douala par Mohamedou Oumfa.
Depuis la COP21, qui a été sanctionnée par l'accord de Paris, jusqu'à la COP28 qui va se tenir demain, il n'y a pas quelque chose de sensible. On est toujours dans les promesses, on est toujours dans les engagements tenus. Et à la longue, on se rend compte que la priorité même de ces gros pollueurs n'est pas le climat en tant que tel. Parce que nous sommes tout à fait surpris aujourd'hui que l'on nous parle d'un réchauffement catastrophique. Parce que la borne était placée à 2 degrés concernant l'évolution de la température, du climat. Cette borne est presque dépassée à 3 degrés. Et nous nous rendons compte que la priorité est ailleurs. La priorité peut-être c'est les hydrocarbures sur le pétrole. La priorité n'est vraiment pas le climat. Donc je serais peut-être péremptoire, prétentieux. L'Afrique n'attend rien de la COP28.
Mais est-ce que sur le continent, il y a des initiatives quand même qui permettent de lutter contre le réchauffement de la planète sans attendre forcément les rencontres comme celle de la COP28?
Vous savez, le problème de l'Afrique aujourd'hui n'est pas beaucoup plus vers la réduction des émissions, encore que nous avons besoin de notre développement. Le problème de l'Afrique aujourd'hui se trouve au niveau de l'adaptation. Et un pays comme le Cameroun a son programme national de mécanisme d'adaptation au changement climatique. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour réduire la vulnérabilité des populations face aux aléas climatiques, comme la construction des drains pluviaux, la construction des logements sociaux, mais c'est pas assez suffisant. Nous devons décrypter les alternatives ou bien des approches endogènes. Et lorsque on passe en revue ces approches endogènes, on constate qu'il y a un certain nombre d'obstacles, la corruption, les détournements de fonds, qui auraient pu amener notre pays à bien renforcer sa résilience au changement climatique.
Quelle est selon vous la meilleure approche pour les pays africains pour être plus audibles sur cette question dans les rencontres comme la COP?
Nous pensons aujourd'hui que l'Afrique devrait se comporter comme un pays. Parce que face aux États-Unis, face à la Chine ou bien à l'Inde, les pays africains ne doivent pas aller en rang dispersé. Nous devons parler du même voix, nous devons présenter les mêmes projets, par exemple la Grande Muraille Verte.
Didier Yinkwa du mouvement Écologie en Marche au Cameroun. Le Monde aujourd'hui avec Eric Manirakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Georges Léonard Sagnon a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.